Chut, ça commence. Ça commence.
Il fallait y penser. Tenir sa droite en marche arrière, c'est rester à gauche et c'est aussi, en somme, avoir son avenir derrière soi.
C'est du tarpin sur la planche. Du tarpin sur la planche. Exploration sociale et sonore.
Laissez-moi. Ben, je comprends.
C'est un problème qu'on a anticipé depuis très longtemps, mais la mairie n'a rien fait.
C'est la faute à Patrick Mussi. C'est la faute à tous ces chefs du Parti Socialiste.
Allez, Marcel, on va observer la population française.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Du tarpin sur la planche revient dans vos oreilles sur Radio Grenouille et Radio Zanzine avec ce mois-ci la lettre H comme...
Habitant.
Hermanès.
Histoire du Gyptis.
H2O.
Hachiche.
Et hépatite.
En clair, nous irons courir avec le loup des steppes, nous embarquerons à bord du Gyptis, un bateau de l'époque où Marseille s'appelait encore Massalia, suivi d'une carte postale envoyée par Pierre du Briançonnais où les migrants meurent dans le silence assourdissant. Ensuite, retour à Marseille avec une enquête sur le hashish dans le quartier du Roucas Blanc. Et si l'hépatite nous guette, Dr Love nous prodiguera ses conseils. Mais tout de suite, nous partons dans le quartier du Panier, rencontrer les autochtones fâchés par les touristes.
Du tarpin sur la planche.
Sur la planche.
Du tarpin sur la planche. À écouter avec ses oreilles. Exploration sociale et sonore. Et sonore.
Depuis ce matin, par la Nationale 7, des milliers de vacanciers arrivent dans le Midi. Première escale de ces grandes vacances, Marseille.
Eh bien, voyez-vous, tout ça, c'est la faute des cartes postales. Les cartes postales sont une invention du diable. En ce sens que on va comme ça découvrir une ville, on la parcourt rapidement et on envoie à ses amis, à ses connaissances, à ses parents, une vue générale de la ville.
Et oui, les journées s'éternisent, le soleil vient insidieusement calciner nos peaux, la chaleur ramollit nos cerveaux. Et oui, mes chers amis, l'été arrive enfin à Marseille. Les vacanciers se ruent à la plage de la Fausse Monnaie, s'entassent sur les terrasses du port à la recherche d'une bonne glace et se faufilent dans les ruelles en quête d'une bonne photo en exclu à prendre ou d'une petite babiole à ramener dans les boutiques qui leur sont destinées. Au Panier, quartier historique et emblématique de Marseille, connu pour son passé de malfrats, et depuis peu pour une série dont je ne m'efforcerai de ne pas citer le nom, attire de nombreux curieux. Les croisiéristes, arrivés en masse, équipés d'un casque audio, suivent en troupeau un guide qui les amènera jusqu'au Mucem, sans prêter attention à ceux qui animent la vie du quartier. Certains, amenés par le petit train, sont venus chercher la petite info croustillante, construite par leur imaginaire, et d'autres, en location Airbnb, viennent admirer les hommages, personnages fabuleux et critiques acerbes laissés sur les murs par les street artistes. Et les habitants du Panier dans tout ça, qu'en pensent-ils? Comment perçoivent-ils la recrudescence du tourisme, la réhabilitation du quartier afin de le favoriser, amenant certains à fuir? Une autre forme de tourisme serait-il envisageable? Je suis allée à la rencontre d'habitants et commerçants qui résident dans le quartier depuis longtemps. Robert, artiste peintre, accueille régulièrement dans son atelier, toujours ouvert, les personnes qui souhaitent s'initier au dessin. Jean-Pierre, artisan coutelier du Panier, passionné, travaille assidûment devant les passants qui s'arrêtent, intrigués par son travail d'orfèvre et sa bonne humeur. Enfin, Dominique, directrice du centre social, Beausanc, est aussi à l'initiative de Jardinons au Panier. Son but, revégétaliser le quartier afin de conserver le lien social et ainsi se réapproprier la rue.
Merci, bon après-midi, mesdames.
Bonjour.
Est-ce que vous avez votre ticket ou pas?
Oui.
Super, je vous remercie. Vous avez une fois un parfum, une fois deux parfums. Alors, par qui je commence? Un parfum, deux parfums.
Est-ce que par hasard, c'est possible de goûter un tout petit peu la navettissime?
Est-ce que vous aimez la fleur d'oranger?
Oui.
Dans les rues aussi, on a pu constater que les plantes favorisaient le lien social. Et moi, j'étais ravie. Et ensuite, eh bien, comme vous avez pu le constater, si vous avez visité le Panier, il y a de nombreuses rues où s'est répandue la verdure. Voilà. Par contre, il y a un phénomène nouveau, c'est vrai, c'est le tourisme, une des plus importantes ressources économiques de notre pays. Et ça a du positif, mais ça a aussi beaucoup de négatifs dans notre quartier. Du genre, moins de disponibilité même moins d'attention de la part même des commerçants vers nous. Enfin, maintenant, tout gravite autour de cette économie du tourisme. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Comme je vous ai dit, j'ai ma fille qui travaille dans ce milieu, donc ça a pour côté aussi. Mais il y en a probablement beaucoup trop. Et ça a aussi favorisé la spéculation immobilière. Et ça, même moi aujourd'hui, je ne peux plus déménager dans le panier. Donc petit à petit, bien, les personnes avec des revenus très bas vont devoir partir. Comme c'était passé, c'est un peu différent la démarche, mais le but est le même, c'est de sortir les pauvres de ce quartier pour laisser la place à des investisseurs, je veux dire pas des grands, mais des investisseurs en tous les cas. Donc les prix flambent et ça dénature l'âme du quartier, de toute façon c'est inévitable, et moi je pense que je connais aujourd'hui au moins 12 familles qui vont quitter le panier.
Ce quartier, je le connais depuis toujours. J'ai vu son évolution, positive et négative. Dans le côté positif, c'est bien sûr la sécurité, les embellissements, faits par l'évolution normale des choses, quoi. Aujourd'hui, une famille de 4 personnes a du mal à vivre dans 15 mètres carrés, ce qui était le cas avant à 7. N'est plus du tout le cas d'aujourd'hui. Donc l'évolution positive, des appartements qui se sont améliorés, des rues qui se sont piétonnisées, des commerces qui se sont installés. Et après, hélas, le côté négatif, c'est le manque de commerces de proximité, parce que le quartier est assez difficile d'accès. Pas d'amélioration notoire en ce qui concerne la politique touristique du panier. Les gens qui visitent le panier ont l'impression qu'ils vont rencontrer le bar de Roland de Plus belle la vie toutes les 5 minutes, alors que le fait le plus marquant est la destruction à 75% du panier par les Allemands pendant la guerre. Le panier a des atouts historiques enfouis que personne ne veut ressortir car ça n'intéresse pas trop la municipalité. Ce qui intéresse la municipalité, c'est le petit train, la Vierge de la Garde, les navettes de Saint-Victor et bien sûr les quartiers où ils investissent aujourd'hui avec des investisseurs privés qui font leur beurre, hélas, sur le compte des vrais Marseillais qui ne peuvent plus habiter décemment dans des logements à cause des loyers. Tout ça à cause des locations... des locations à la journée qui ne sont pas réglementées, à cause de bureaux qui prennent la place de commerce. Voilà. Qui est sympathique pour les touristes, devient de plus en plus problématique pour les véritables habitants qui, eux, sont là 365 jours dans l'année.
Comment je pourrais dire, c'est pas franchement du tourisme culturel, quoi. Ce sont des gens, il y a plusieurs types de tourisme, comme partout. Il y a déjà ce qu'on nous inflige, entre guillemets, c'est le tourisme croisiérisme. Voilà, ces gros bateaux qui polluent terriblement et qui nous amènent ici une foule de gens que... je respecte par l'être humain, mais qui sont là, ici, en consommateurs rapides et qui n'ont pas le temps de s'arrêter, c'est-à-dire ils sont en groupe, collectif, derrière un panneau ambulant. Et puis, ils suivent et à la limite, ils achètent des cartes postales. En fait, qu'ils achètent ou pas, ce n'est pas un problème pour moi. C'est juste, je me demande qu'est-ce qu'ils en retirent au niveau de l'image, au niveau de ce que... Voilà, ils sont souvent avec des gens qui leur racontent un peu des histoires sur ce qui se passe ici, des histoires qui sont peut-être vraies d'ailleurs, mais ils n'en retirent pas grand-chose, quoi. Ils sont chronoifiés, c'est-à-dire qu'il y a un temps à respecter, et puis hop, on monte sur le bateau et on s'en va. Et puis il y a l'autre tourisme, ce sont des gens qui viennent ici en vacances sur Marseille. Et les gens, ils viennent profiter du bord de mer, ils viennent profiter de la ville, ils viennent... Il y a une époque, j'ai eu un petit peu l'impression que les gens qui venaient dans le panier, les touristes qui venaient dans le panier, ils venaient, je ne sais pas si c'est vraiment, mais je dirais presque sans canailler. Ils venaient rechercher une image du panier qu'ils avaient entendue, qu'on leur donnait. C'est comme si les gens allaient dans les quartiers nord un petit peu, sauf que c'est le panier, ça loue aussi y a cette idée-là du très vieux quartier. Donc on vient chercher un petit coup de frisson, un truc comme ça. Il y a une nécessité, effectivement, que le quartier se développe et s'ouvre. Ça, c'est une réelle nécessité. Mais cette nécessité, elle est soumise aux mêmes, j'allais dire presque aux incantations de l'argent qu'on retrouve partout où le tourisme arrive. C'est pas le tourisme en lui-même, c'est ce qu'on en fait. Oui, c'est, voilà. Effectivement, ce quartier change aussi. Je l'ai vu beaucoup changer. Et c'est ce dont j'allais venir. En fait, j'allais venir à ça. C'est que, d'une part, les loyers ont beaucoup augmenté. Mais on a vu, ça se voit un tout petit peu moins maintenant, mais pendant 3-4 ans, on a vu tout d'un coup les travaux se faire de partout. Et c'était des travaux de particuliers qui commençaient à se rendre compte que leurs biens qu'ils avaient laissés un petit peu en déshérence et en désordre, qui même tombaient en ruine pour certains, il y a beaucoup d'appartements qui étaient vides, qui étaient devenus inhabitables, ils commencent à se rendre compte, ces gens qui sont partis habiter ailleurs, à se rendre compte qu'il y avait de l'argent à se faire. Donc il y a eu pas mal de travaux de fait. Et je ne dis pas, encore une fois, que c'est forcément mal. C'est juste dans l'état d'esprit, dans ce que ça met. C'est-à-dire à partir du moment, et comme partout, quand les loyers augmentent et qu'on force les gens, parce qu'il y a quand même ça reste un quartier néanmoins populaire, avec une habitation, enfin avec des habitants qui sont issus de ces quartiers-là et qui continuent à vivre. Mais le problème, c'est que quand les loyers montent, ces gens-là, on les force à partir quelque part. Donc du coup, ça transforme la mentalité du quartier, l'idée qu'on en a et ce qu'on pourrait en faire. Je crois qu'on a encore beaucoup de mal à maîtriser tout ça en France. Enfin, pas qu'en France, mais comme on vit dans une société d'argent, partout où il y a de l'argent à faire, plouf, on fonce à pieds joints dedans, quoi. On n'a encore pas compris qu'il y avait d'autres possibilités. On le ressent beaucoup avec ce qui se passe. Là, on va sortir un petit peu du quartier, mais de ce qu'on fait de la ville de Marseille. Ouais, on fait de Marseille cette ville, on en fait une ville de commerce et on voudrait en faire une ville d'industrie. Et on rejette un petit peu ce que Marseille avait d'attirant et de vivant et d'historique. Notamment, on voit ce qu'on fait avec les ruines qu'on va transformer en immeuble. Enfin, c'est aberrant. Alors qu'on ne comprend pas qu'il y a aussi une possibilité de faire venir du tourisme pour ce caractère-là.
Oui, bah oui, comme on a envie de dire.
C'est de l'argent qu'on gagne autrement et beaucoup plus intelligemment. Quand on voit ce qu'on a fait sur le bord des digues, tout ça. Enfin, effectivement, il y avait des choses à faire, il y a des travaux à faire. Moi, je trouve le musée magique. La ville de la Méditerranée, on pourrait en discuter pendant un grand moment, elle est nettement moins magique pour moi. Mais quand même, ce qui était faux pour Saint-Jean, c'est très très bien. Seulement, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivaient dans ce quartier. Et ce secteur-là, c'était leur secteur, comment je pourrais dire, nature, quoi. C'est là où il y avait de l'herbe. On aurait pu tout à fait faire le MUCEM, tout à fait remettre en état, et puis conserver quand même une part de, j'allais dire presque d'humanité, c'est-à-dire de nature qui amène à l'humanité à vivre autrement, pour que les enfants puissent y jouer et tout ça. Et on transforme petit à petit tout le long, tous les ports, tout le long, en juste le maître mot, c'est commerçant, marchand, et on fait venir les gens, et puis en fait on se plante, quoi. En fait on se plante.
Hermanès, Le Loup des Steppes, page 64.
Il était une fois un homme qui se prénommait Harry et que l'on appelait le Loup des Steppes. Il marchait sur deux jambes, portait des vêtements comme un être humain, mais en vérité c'était un loup. Il avait l'érudition des personnes à l'esprit bien fait et apparaissait comme un homme d'une assez grande intelligence. Cependant, il y avait une chose qu'il n'avait pas apprise, c'était à se sentir content de lui-même et de son sort. Il en était incapable. Aussi était-ce un être insatisfait. Il existait une explication probable à cela. Au fond de son cœur, il était en effet persuadé, ou croyait l'être, qu'en vérité il n'était nullement un homme, mais un loup, venu de la steppe. Certaines personnes éclairées auraient pu discuter de la question et chercher à déterminer s'il était effectivement un animal. Ce que les autres ou lui-même pouvaient en penser ne revêtait aucune importance à ses yeux. Cela n'extirpait pas le loup de son être. La plupart du temps, il était indéniablement très malheureux. Il pouvait également rendre les autres tout aussi malheureux que lui lorsqu'il les aimait et que ceux-ci l'aimaient en retour. En effet, toutes les personnes qui s'attachaient à lui n'apercevaient qu'un seul aspect de sa personnalité. Certaines d'entre elles chérissaient l'homme, raffiné, intelligent et singulier, et se sentaient horrifiées et déçues en découvrant tout à coup le loup. Or, cela arrivait forcément car, comme chacun, Harry désirait qu'on l'aimât de manière totale et se montrait incapable de dissimuler le loup, de mentir sur son existence face aux êtres dont l'affection lui importait tout particulièrement. À l'inverse, il y avait les personnages qui aimaient le loup, son côté libre, sauvage, indomptable, dangereux et puissant. Mais celle-ci se sentait dépitée et attristée lorsqu'il s'avérait tout à coup que ce loup sauvage et méchant était un homme aspirant profondément lui aussi à la bonté et à la tendresse. Désirant lui aussi écouter Mozart, lire des vers et nourrir des idéaux humains. Ce sont précisément ces personnes qui éprouvaient très souvent la déception et la colère la plus extrême. Aussi, le loup des steppes introduisait-il sa propre dualité, son propre déchirement intérieur dans toutes les destinées étrangères qu'il effleurait.
Tarpin sur la planche.
Sur la planche.
Du tarpin sur la planche. À écouter avec ses oreilles. Exploration sociale et sonore. Et sonore.
Bonsoir Vanda.
Bonsoir Lorelai. Aujourd'hui pour Ciné Tarpin, vous vous êtes passionnée pour un nouveau chef-d'œuvre du péplum marseillais?
Absolutely Vanda. Alors ce film est une nouvelle pierre d'un style tout à fait étonnant développé dans la cité phocéenne. Il s'agit du péplum documentaire. Ici, c'est le grand Pierrus qui poursuit son exploration des fondations de Marseille avec son History of Gyptis, un film aller-retour entre passé ancien et présent actuel sur un bateau de conception massaliette, soit daté de 600 ans avant Jésus-Christ. Reconstruit en 2013, il navigue aujourd'hui dans nos eaux. Pierrus y a embarqué en 2014 pour une odyssée des ports de Sète à Marseille.
Merci, Lorelai. Pour la version longue en 2x2 heures, véritable épopée, nous invitons nos auditeurs à se connecter sur l'audioblog du Tarpin sur la planche. À présent, il est temps d'embarquer pour une croisière hors normes et hors du temps. Bande annonce.
En l'an 600 avant Jésus-Christ, sur les collines du Marseille Vert, un village Ségobrige vit l'arrivée des phocéens. Partant de sa cité grecque de Phocée en Asie mineure, Protis suivit les indications de son père Euxène, qui avait découvert un grand fleuve où établir de nouveaux comptoirs, le Rhône. 150 hommes composaient l'équipage de ces puissants navires. Ils accostèrent sur la côte le jour où Nannos, le roi de ces terres, organisait un banquet pour le mariage de sa fille. La coutume voulait que la femme qui allait se marier tendît une coupe d'eau à son futur époux. Gyptis, la fille de Nannos, remit sa coupe à Protis. Alors Nannos leur accorda la calanque du Lacidon pour s'installer. Les phocéens s'installèrent durablement en ces lieux qu'ils nommèrent Massalia. Leurs enfants construirent des bateaux pour la pêche et le commerce.
Bonjour à toutes et à tous, il est 6h30 du matin ce lundi 22 avril 2014. On est dans les rues de Sète, très jolie ville, très joli port avec ses canaux, ses jolies façades méditerranéennes. Et puis on s'apprête à rejoindre le Gyptis pour un grand voyage, un voyage assez particulier puisqu'on va monter à bord d'un bateau qui est la réplique d'un bateau qui a été construit à Massalia il y a 2600 ans. Julien, comment tu sens ce grand départ ce matin?
Je le sens en retard. Allez, on trotte là. On est venu présenter le bateau puisqu'il y avait ce festival des vieux gréements là, qui s'appelle Escale à Sète. Donc avec les autres, on a paradé.
Tel de fiers coques sur votre vieille coque.
Donc on ramait un peu tous les jours pour se montrer. On a sorti la voile, une voile carrée comme celle des bateaux grecs d'antan, d'antique, disons.
Écoute aussi.
Tu as aussi ?
Là, il ne faut pas tirer les coudes beaucoup plus que comme ça, un tout petit peu plus. Voilà, ramène-les sur l'arrière, là, au râtelier, on va les régler.
Et Julien, comment ça se passe pour toi depuis le départ de cette ?
Ça va, j'ai eu un moment où j'avais un peu la nausée, mais c'est passé.
Notre capitaine, Pierre, qui est juste derrière.
Barbe noire.
Barbe noire, ouais, c'est vrai que ça lui va bien, barbe noire.
Ouais. Un petit mot sur la navigation de ce matin.
Ouais.
Bah, c'est tout pourri. Et on avait un petit vent de face avec un petit clapot qui était juste pas du tout idéal pour la navigation d'aujourd'hui, puisque c'est assez long pour la taille du bateau, vu qu'on n'a pas de moteur. Donc voilà, on a pris le canal du Renacet. On est en train de passer dans les temps de Langril. On va passer vers l'abbaye de Villeneuve et les Maglones.
Là, on est au point, on fait gaffe, Pierrot.
Hein. T'inquiète, j'y suis.
Alors, nous sommes donc au masse du garde. Le masse du garde.
Tu pouvais avoir un petit PMU ouvert, là. Une petite binouille un peu fraîche. Et c'est reparti comme en 40.
C'est vrai que, afin de lutter contre la courbature et d'autres maux.
En 1993, les archéologues du centre Camille Julien trouvèrent deux de ces bateaux sur le chantier de la fouille de la place Jules Verne, dans la calanque du Lacidon, devenu après 2600 ans d'histoire, vieux port de Marseille. Les épaves Jules Verne 7 et Jules Verne 9 sont aujourd'hui visibles au musée d'histoire de Marseille. En 2013, en collaboration avec les charpentiers de marine des chantiers Borg de Marseille, les archéologues construisirent une réplique de l'épave Jules Verne 9, baptisée Gyptis. Le bateau navigue depuis l'hiver 2013 en rade de Marseille dans les alentours.
Alors on va à 5 nœuds et demi.
Putain, bien, hein.
Et on est au Cap Couronne dans 30 minutes.
On check la manœuvre là. Que le vent se lève un petit peu, là je pense qu'on est en train de bien tracer. On a une houle du 3 quarts arrière là qui est gentillette, mais faut faire gaffe. Quoi. Mais on a un bon marqueur à bord du bateau, c'est qu'on a Julien qui est à l'avant, qui commence à bailler, ce qui veut bien dire qu'il a l'estomac qui se retourne.
Au bon...
Avance-toi Julien, plutôt. Au même niveau que Guillaume. Ouais, vous pouvez l'attacher directement au banc. Et vous allez bien le serrer pour éviter que ça valdingue. Donc Guillaume, c'est bon, tu peux l'attacher.
C'est bon.
Ouais, là, c'est bon. C'est parfait.
Si on va au musée d'histoire aujourd'hui, il y a 2-3 petits films où on voit des modèles 3D qui sont en fait nos modèles 3D quasiment, qui ont été repris et mis en forme pour faire comme si les bateaux voguaient rentraient dans le Marseille antique. En fait, on peut l'imaginer hein, comment il va se comporter. Mais dans les très très grandes lignes, même si on fait des simulations, ça demeure quelque chose d'assez approximatif et assez complexe à faire. Donc finalement, pourquoi pas construire un bateau et partir pour véritablement naviguer avec. On mélange l'ethnographie, l'iconographie sur les vases, les bas-reliefs, les peintures murales, les graffitis et l'archéologie pour dresser un plan des parties disparues du bateau. Si on n'avait pas eu nos discussions entre archéologues et charpentiers pour réfléchir sur la façon dont on allait construire le bateau il n'aurait pas été aussi bien construit et le projet il n'aurait pas été aussi chouette au niveau de la construction. Véritablement, quand on l'a mis à l'eau le bateau et qu'on a fait les premiers tests à la mer, et on s'en rend compte encore aujourd'hui, c'est qu'il est vachement bien né, il est sain, et je pense que c'est parce qu'on a travaillé vraiment la main dans la main qu'on a réussi à faire un projet comme celui-là, quoi. Et là, si on veut faire, si on veut s'énerver, on fait comme Tessier. On s'arrête pas à Marseille, on va direct au...
On va direct en Polynésie.
On va direct à La Ciotat déjà dans un premier temps, parce que là, on fait cap sur Tiboulen bientôt. Enfin, on va attendre de passer le petit au fond et puis on fait cap sur Tiboulen et...
Thank you.
fait des mailles, des amarres. Les vols ferrés du bastiment. Au cave l'ouble sur l'esquine, la velle sec à la louvée. L'arbre commune en cathédrale. Montaudré d'une loup firmament. Agaccio l'oupon et les cales, veille sa contendra l'untain. Senso d'arrière, senso d'avant, che fa pare me lo curaggi, che fa pare e me lo san. Lo largi te mal che te masca, e ti fa perdere la ragione. Oblida che la mai pulita te sperei là di la mesù. La mare è buona e calena du buon custan. Veissi la costa, veissi le quella e l'ulle me della città.
Il paraît que l'eau a une mémoire. Ami marseillais, ami marseillaise, souviens-toi de celle de la Méditerranée qui, depuis les Phocéens, a amené tant de personnes d'origines différentes pour bâtir ta ville. L'eau, c'est aussi celle qui t'abreuve en descendant des Alpes. Peut-être as-tu déjà profité de la glisse sur cette eau de là-haut à l'état solide. À Briançon, où je te parle en ce moment, depuis 2 ans transitent de plus en plus d'exilés. Ils craignent les contrôles à la frontière. Alors, ils font face de façon toujours plus proche aux dangers de la montagne. Tout l'hiver, les montagnards solidaires n'ont eu qu'une hantise, que l'on retrouve des cadavres au printemps. Vendredi 25 mai, un corps a été retrouvé non loin de Bardonecchia en Italie. Le malheureux tentait de franchir la frontière et le col de l'échelle pour un avenir meilleur en France. Combien de temps est-il resté sous le blanc manteau ? Pour l'heure, l'enquête ne le dit pas. Est-ce le premier d'une longue série ? Les montagnards en ont bien peur. Eux qui se démènent pour que leur montagne ne soit pas un cimetière.
Serons-nous un jour comme ces femmes tunisiennes qui refusent désormais d'aller à la pêche parce que les poissons qu'elles ramènent dans leurs filets se sont nourris de la chair de leurs enfants ? N'oserons-nous plus boire l'eau de nos sources ni mettre un pied sereinement en montagne parce que nous savons que des amis exilés y ont laissé leur vie traquée comme du gibier ?
Ainsi parlait l'ancien pisteur Benoît Ducos, à l'occasion d'un hommage à Blessing, une jeune Nigériane dont la vie a été emportée par la Durance, début mai. Elle y est tombée en tentant d'échapper à une patrouille. Le bouillonnement de la rivière, entraîné par la fonte des neiges, a retiré ses vêtements et a effacé son visage. Sa propre sœur, qui a des papiers en Italie, n'a pas pu reconnaître le corps et rendre un dernier hommage. Elle n'a pu laisser entrer en France que son ADN, qui a permis d'identifier Blessing. Quelques jours plus tard, à quelques encablures d'où serait tombé Blessing dans la Durance, le corps de Mamadou a été retrouvé sur un sentier. Lui, comme elle, ne compteront pas parmi les rescapés du Sahara, de la Libye, de la Méditerranée, et désormais des Alpes. amie marseillaise, ami marseillais, l'eau de l'endurance est celle qui te fait vivre. Alors souviens-toi de ces destins tragiques, la prochaine fois que tu mettras de l'eau fraîche dans ton pastis. Et rappelle-toi que ta ville est monde et qu'elle a toujours été un lieu de refuge, ce qui la rend vivante, belle et rebelle. Et ça, souviens-t'en aussi quand tu iras te baigner en Méditerranée.
Mais quel bazar! Ça peut plus durer, hein!
Il y a du tarpin sur la planche, vous allez voir. Émission de reportage à écouter avec ses oreilles.
Si ça continue, va falloir que ça s'arrête, hein!
Le loup des steppes, page 70.
Chaque type d'être humain possède des signes distinctifs, des marques caractéristiques. Chacun a ses vertus et ses vices, ses péchés mortels. Le loup des steppes, quant à lui, se distinguait entre autres par le fait qu'il commençait à vivre le soir. Le matin représentait pour lui un moment pénible de la journée, qu'il craignait, et qui, pas une seule fois, ne lui fut profitable. Aucun matin ne le rendit vraiment joyeux. Jamais, au cours des heures précédant midi, il ne fit rien de bon. Il n'eut d'idées fécondes, susceptibles d'éveiller son enthousiasme et celui des autres. Dans l'après-midi, il commençait lentement à s'animer, à vivre. Et c'est seulement vers le soir que, certains jours propices, il devenait productif, actif, parfois ardent et joyeux. Cette particularité engendrait chez lui un besoin de solitude et d'indépendance. Jamais personne ne désira plus profondément et plus passionnément être libre. Dans sa jeunesse, alors qu'il était encore pauvre et gagnait difficilement de quoi vivre, il préféra continuer d'avoir faim et de porter des vêtements déchirés pour pouvoir préserver une petite parcelle de cette liberté. Jamais il ne se vendit, ni pour de l'argent et du confort, ni à des femmes ou à des puissants. 100 fois, il rejeta et refusa ce que tous considéraient comme un avantage et une chance, afin de ne dépendre de personne. Rien ne lui semblait plus détestable et effrayant que de devenir un employé, que de devoir respecter un emploi du temps journalier, annuel, et obéir à d'autres. Un bureau, une étude, un service administratif lui inspiraient autant d'horreur que la mort, et rien ne pouvait lui arriver de plus terrible en rêve que d'être enfermé dans une caserne. Il sut se soustraire à ses conditions d'existence, souvent au prix de grands sacrifices. Et c'était précisément là que résidait sa force et sa vertu. C'était là qu'il se montrait inflexible et intègre, là que son caractère demeurait ferme et droit. Cependant, sa souffrance et son destin tragique étaient étroitement liés à cette moralité. Il lui arriva ce qui arrive à tous, ce que l'instinct le plus profond de son être le conduisait à rechercher et à désirer, avec une obstination extrême, lui fut certes donnée, mais au-delà de ce qui convient à un être humain. Au début, ce fut comme la réalisation de son rêve, de son bonheur. Puis, cela prit la forme d'un amer destin. L'homme de pouvoir est détruit par le pouvoir. L'homme d'argent par l'argent. L'homme servile par la servilité. L'homme de plaisir par le plaisir. Ainsi, le loup des steppes fut-il détruit par sa liberté. Il atteignit son objectif, s'affranchit progressivement de toute contrainte. Personne ne pouvait lui donner d'ordre. Il atteignit son objectif, s'affranchit progressivement de toute contrainte. Personne ne pouvait lui donner d'ordre. Il n'avait pas à se conformer à la volonté de quelqu'un. Il décidait de sa conduite de façon libre et indépendante. Car tout homme fort parvient infailliblement au but qu'un véritable instinct lui ordonne de poursuivre. Cependant, lorsqu'il se fut installé dans cette nouvelle liberté, Harry s'aperçut tout à coup que celle-ci représentait une mort. Il était seul. Le monde le laissait étrangement tranquille, et de son côté, il ne se souciait plus des gens, ni même de sa propre personne. S'asphyxiant lentement, dans cette existence solitaire, sans attache, où l'air se raréfiait. Désormais, la solitude et l'indépendance ne constituaient plus pour lui un souhait et un but. Elles étaient son lot, sa punition. Il avait formulé un vœu magique qu'il ne pouvait retirer. Il ne lui servait plus à rien de tendre les bras vers les autres avec ardeur et bonne volonté, en se montrant prêt à retisser des liens, à retrouver la communauté. On le laissait seul maintenant. Ce n'était pas qu'il fût haï ou qu'il inspirât de l'antipathie. Au contraire, il avait de très nombreux amis. Il vivait à présent dans l'univers des solitaires, dans une atmosphère silencieuse, dans l'éloignement du monde environnant, dans une incapacité à se lier, contre laquelle toute sa volonté et son aspiration demeuraient impuissantes.
Vous êtes toujours sur du tarpin sur la planche et Thomas et Claire sont partis dans les quartiers chics du Roucas Blanc pour un sujet choc sur le haschich. Thomas, pourquoi être allé s'enfumer la tête au Roucas Blanc ?
Eh bien, nous avons voulu aller au-delà des clichés et aller demander aux habitants de ce quartier chic ce qu'ils pensent du cannabis. Et non pas dans un quartier nord, plutôt un quartier sud, parce que les clichés, on en a marre.
Est-ce que vous pensez que Marseille est bien la capitale du haschich ?
C'est dur à dire, hein. C'est des clichés, ça.
J'en sais rien, mais à mon avis, ça serait plutôt les pays où c'est libre.
Non, c'est toutes les villes qui sont pareilles. Hein. Même dans des bleds, à la montagne, n'importe où, ça se consomme de partout. C'est la mode, hein.
Vous en sentez dans la rue quand vous vous baladez ?
Parfois, oui.
Ouais.
Mon voisin, par exemple, souvent. Tout bêtement. Quand je suis sur ma terrasse, j'ai des effluves qui arrivent.
Dans les bus, des fois. Mais sinon, rarement.
Vous avez déjà essayé ?
Non.
Jamais ?
Jamais.
Et à votre avis, ça fait quoi comme effet ?
Oh, ça doit être stimulant. Ça doit être euphorique pendant un moment. Et peut-être qu'après, on s'habitue. Mais j'ai des copains qui en fument tous les jours, qui sont profs. Et ça ne les a pas empêchés de bien donner de cours.
Oui, voilà. J'ai essayé, ouais.
Et alors, qu'est-ce que ça vous a fait ?
Non, c'est bien, ça relaxe. Mais après... Je ne sais pas ce que ça peut faire sur du long terme, mais oui, pour passer une bonne soirée, ouais, c'est...
Ah, la drogue, le hashish.
Et voilà.
L'hashish. Parce que moi, je suis un Kabyle.
D'accord.
De Tizi Ouzou.
Et vous habitez dans le quartier ?
Non, je travaille ici.
Mais vous habitez à Marseille ?
J'habite à Marseille, au 15e, dans un quartier, à Compans-l'Évêque. C'est un quartier où c'est connu de la cannabis.
Gérard, tant que tu écoutais Mi-Gégère et le Butel... Je dis rien. Mais quand tu fumes du hakik, non!
J'ai fait mon service national en Algérie, alors j'ai fumé là-bas parce que là, tu es obligé de fumer parce que quand tu sors à la forêt pour chercher les grenouilles, alors tu es obligé de fumer parce que sinon, tu es obligé de fumer comme ça, si tu es mort, tu ne sens pas la mort.
Ah ouais?
Ouais.
Alors, les grenouilles, c'est les barbus?
Ouais.
Est-ce que vous avez déjà consommé du cannabis ?
Quand j'avais 14 ans, oui. Une fois.
Une fois ? Et ouais. Ça vous a fait quoi ?
Je dors. Donc autant dire que ça sert à rien.
Est-ce que vous croyez que dans le quartier, les gens consomment beaucoup ?
Dans le 7e, là ?
Ouais.
Actuellement où vous êtes ? Non.
Moins que dans d'autres quartiers de Marseille ?
Je pense.
En direct du Roucas Blanc, Thomas et Claire sont perdus dans les chemins. C'est peut-être pour ça qu'on ne consomme pas de cannabis dans le Roucas Blanc. Car c'est un dédale.
Tu fumes un joint, t'as aucun moyen de retrouver ton appart, c'est mort.
Tu es perdu, condamné à errer à jamais.
Toutes les rues se ressemblent, les camions des ouvriers du bâtiment portugais sont tous les mêmes partout. Il y a les mêmes affiches voisins vigilants partout, les mêmes coquelicots, les mêmes fleurs partout. Non, au casse blanc, tu peux pas tester. Tu prends un pétard, c'est fini.
C'est fini pour toi.
J'en consomme tous les jours, du matin au soir.
Ça va, ça va.
Je suis un petit peu déphasé. Non, sur la chiche, je veux dire. Moi, je suis contre toutes les drogues. Hein.
Ouais.
Voilà.
Pourquoi vous êtes contre les drogues ?
Parce que bon, il y en a qui ne savent plus ce qu'ils font, surtout. Voilà, c'est ça. Si ça veut le prendre avec modération, ça va. Mais c'est comme l'alcool. J'aime pas l'alcool justement pour ça. J'ai vu qu'il y avait mon père toujours ivre pendant 7 jours. Il était 6 jours plein à bloc. D'accord ? C'est pour ça que nous. On ne boit pas, il y en a 11, moi je suis le 10e, il n'y en a aucun des 11 qui boit.
Est-ce que vous avez déjà fumé vous-même ?
Oui.
Et alors ?
Oui, ben alors ce fut il y a longtemps quoi. Maintenant j'ai une famille, des gosses, un travail. Et voilà quoi.
C'était sympa?
Ben ouais, tu dois pas en parler mieux que moi, non?
Ça fait un petit moment aussi.
Vous pensez qu'on peut pas concilier une vie, on va dire, une vie d'adulte, une vie professionnelle avec la consommation?
Non.
Parce que ça pose quoi comme désagrément?
Difficulté à se réveiller, à être alerte, concentré.
Eh ben, voyez, lui, quand il va arriver, vous pouvez lui demander si j'ai bu, si j'ai fumé, il vous dira lui-même. Eric!
Bonjour!
Eric!
Eh oui! Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que
j'ai déjà... Il a jamais bu de sa vie. Il boit du lait fraise et des cafés. Et c'est un ancien boxeur. Il fume pas. Il a bu ça de champagne, il a vomi, il s'est pissé dessus.
Oui, ben le pinard, c'est pas interdit que je sache. Alors, il doit être quand même y avoir une raison, hein?
Par rapport à chez toi, au Kabylie, tu trouves qu'il fume plus là-bas ou il fume plus ici?
Si, si. Nous, à la Kabylie, si on voit quelqu'un, il fume, ça veut dire qu'elle est capable de faire quoi que ce soit.
Ah, ça veut dire qu'il est capable de n'importe quoi.
Voilà.
Ça veut dire qu'il respecte pas la loi.
Ouais. Même la loi. La loi en Algérie, s'il te trouve avec un petit bout, tu as 6 mois. Ferme.
Ah, ferme.
Ferme.
Vous connaissez des gens qui fument autour de vous un peu?
Je connaissais des policiers, oui. Beaucoup de policiers, oui. De la BAC, oui. Oui, oui. Ils fument. Voilà.
Et alors, vous pensez que ça les aidait à mieux faire leur travail ou pas?
Ouais. Mais ça risquait de faire des bavures aussi.
Et à votre avis, est-ce que c'est dangereux pour la santé?
Je ne suis pas médecin. Il y a des pays qui le valident pour certaines maladies graves. C'est vrai que face à la morphine, c'est peut-être moins toxique que la morphine.
Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui consomment ici à Marseille?
Oui, la plupart des gens fument, quoi. Ouais. Que je connais.
Ils fument régulièrement?
Oui, régulièrement, oui.
Et est-ce que tu as constaté une différence entre avant et après?
Non, pas particulièrement.
Vous avez déjà consommé du cannabis?
Non, jamais.
Vous n'êtes pas curieux d'essayer pour voir ce que ça fait?
Non, pas du tout. Non, j'ai arrêté la cigarette il y a 40 ans, donc je ne vais pas me mettre à fumer ça. J'ai vu tellement de dégâts.
Dans quel milieu vous travaillez pour...
Dans le médico-social. Je m'occupais de jeunes délinquants et de jeunes en difficulté. Et souvent, ben, les produits, hein, que ce soit l'alcool, mais même le hashish, étaient un moyen un petit peu d'évasion. Et puis après, le groupe, faire comme tout le monde, c'est... Des fois, on fait pareil pour la cigarette, hein. On veut faire comme tout le monde.
Et donc, vous ne stigmatisez pas les consommateurs comme des délinquants?
Non, je pense qu'ils sont délinquants par rapport à eux déjà. Après, tant qu'ils, pour avoir accès aux produits, ils ne rentrent pas dans des comportements qui nuisent à d'autres, ils gèrent leur propre vie, malheureusement, ils se nuisent à eux-mêmes.
Monsieur fume du high kick avec les biclites. Fais attention, Gérard. Fais attention. Tu es sur une pente solennelle.
C'est une question de fréquence et de quantité, je pense, sûrement quoi. Si tu passes ta journée à t'en fumer, je sais pas, une dizaine par jour, ça fait beaucoup peut-être, non? Je sais pas.
Et votre voisin, il en est où alors?
Oh, il en est, mais il est pas brillant, physiquement et dans sa tête. Alors, est-ce que ça vient du hashish? Je sais pas. Peut-être que ça vient d'autre chose. Je sais pas.
Tu penses que c'est dangereux pour la santé, le cannabis?
Bah oui. C'est pas on pense, c'est bah oui. D'ailleurs, il nique le moral, la poche, et tu deviens fou, tu te souviens plus.
Et vous les biknits, vous enfermez dans les pioles avec du hakik et vous chantez des chansons tristes. Vous êtes tristes, voilà, tristes. À 40 ans, vous serrez des loïcs humaines.
Oui, moi je connais un docteur qui prend ça pour son père qui est très malade, ouais. Et il en achète de façon illégale, bien sûr, mais... Il s'en sert pour son père qui est souffrant. Et ça marche bien.
Alors pour vous, la cigarette, ce serait pire?
Au niveau de santé, oui. Oui, parce que je ne pense pas qu'il existe des vertus thérapeutiques dans la cigarette. Non, je n'ai jamais entendu, quoi. Par contre, au niveau de l'herbe, j'ai entendu plusieurs fois, quoi.
Est-ce que vous pensez que les gens qui consomment de l'alcool, c'est plus dangereux, par exemple?
Oui.
Oui?
Oui, à mes yeux, oui.
Et la cigarette?
Bah, je suis fumeuse, donc je ne vais pas me critiquer, quand même.
Quand on voit la tristesse des biknits, on comprend pourquoi c'est interdit le high kick. Et on se dit que le pinard, ça devrait être obligatoire.
Vous avez peut-être reconnu Coluche dans son sketch Gérard. Les autres restons anonymes pour ce reportage choc. À noter une information importante, les gens qui ne consomment pas ont considéré que le cannabis n'était pas dangereux, et les gens qui consomment ont considéré que le cannabis était dangereux. On en tirera les conclusions qu'on veut. Nous nous excusons pour les oreilles de nos auditeurs, pour les pics de saturation de cet enregistrement. Nous étions en effet sous l'emprise de notre sujet. Tout comme l'était Higelin de la cigarette dont il était amoureux. Paix à ton âme, Jackie.
Je suis amoureux d'une cigarette toute la sainte journée. Elle me colle au bec. Elle aussi, si te reste un peu de ferraille, ravitaille-moi d'un paquet de gris. Que je m'en grille une aussitôt à la place de ce satané vieux mégot. Oh. Je suis amoureux d'une cigarette. Sans elle, j'ai l'air d'un poussin cherchant son omelette. Et Susan, si te reste un peu de pognon, ramène-moi donc un paquet de blonds. Je m'enroule une aussi sec à la place de ce satané vieux mégot. Oh, oh. Je l'aime bien épaisse, roulée comme une papesse, dans son fourreau zigzag à bord gommé. Quand du bout de la langue, je la lèche le tang, fumant elle frémit sous la morsure de mon dentier. Hey, hey. Jenny, y aura une taf pour toi si tu penses à mon paquet de gris. Oh. Mange-toi car j'ai bientôt fini de tirer sur ce satané vieux mégot. Oh, 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 oh.
Expliquer une personnalité aussi contrastée que celle de Harry, en la divisant de façon naïve en loup et en homme, représente une tentative désespérément candide. Harry ne se compose pas de deux êtres, mais de cent, de mille. Son existence n'oscille pas, à l'instar de celle de tout homme, entre deux pôles uniques, entre les instincts et l'esprit, ou entre la sainteté et la débauche, elle oscille entre des milliers d'innombrables séries d'oppositions. En vérité, il n'est pas de moi, même le plus naïf, qui soit un. Celui-ci représente un monde extrêmement multiple, un petit ciel étoilé, un ensemble chaotique de formes, de degrés, d'évolution et d'états, d'hérédité et de potentialité. Le fait que tout individu s'applique à considérer ce chaos comme une unité et à parler de son moi comme s'il s'agissait d'un phénomène simple, structuré, clairement délimité, le fait que cette illusion s'installe aisément chez chacun, même chez les êtres les plus évolués, semble constituer une nécessité, un besoin aussi vital que celui de respirer ou de manger. L'illusion est fondée sur une simple analogie. En tant que corps, chaque homme est un. En tant qu'âme, il ne l'est jamais. Imaginez un jardin où poussent des centaines d'espèces, d'arbres, des milliers de fleurs différentes, des centaines de variétés de fruits, des centaines de types d'herbes. Si le jardinier chargé de son entretien a des connaissances botaniques limitées, lui permettant uniquement de faire la distinction entre les plantes comestibles et les mauvaises herbes, il ne saura pas comment s'occuper des 9/10 de son jardin. Il arrachera les fleurs les plus merveilleuses et abattra les arbres, les variétés d'arbres les plus nobles, ou les détestera, les regardera de travers. C'est ainsi que le loup des steppes se comporte vis-à-vis des 1000 fleurs ornant son âme. Il ignore totalement ce qui n'entre pas dans la catégorie homme ou dans la catégorie loup. Et que n'inclut-il pas parmi les caractéristiques de l'homme ? Toutes les lâchetés, toutes les attitudes grotesques, toutes les stupidités et les mesquineries lui sont attribuées, dès lors qu'elles n'entrent pas dans la catégorie du loup. De même, il range du côté de ce dernier tout ce qui est fort et noble, simplement parce qu'il n'a pas encore réussi à s'en rendre maître. Mais nous prenons congé de Harry. Nous le laissons poursuivre seul sa route. S'il séjournait déjà parmi les immortels, s'il avait atteint le but vers lequel son cheminement pénible semble le guider, il regarderait avec un étonnement extrême ses va-et-vient, sa trajectoire zigzagante, folle, indécise, et il adresserait au loup des steppes un sourire plein d'encouragement, de reproche, de compassion, d'amusement.
Yo yo yo, c'est l'heure de Dr Love, le moment que vous attendez tous. Dr Love qui va nous parler d'amour, qui va nous parler d'autre chose, qui va nous parler... Dr Love ?
Non mais ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout, aujourd'hui ça va pas. C'est l'hécatombe, on va parler d'hépatite. Question haletante qui nous court sur le haricot. Top ! Je suis une maladie auto-immune qui fait que tu peux mourir d'un rhume des foins. Transmissible par le sang, les muqueuses, mais pas par les moustiques. J'ai fait des ravages dans le monde entier et particulièrement dans les années 80. À l'heure où nous parlons, il n'existe toujours pas de vaccin ou de traitement m'éliminant. Je suis...
Le HIV !
Est-ce que vous connaissez ses meilleurs potes ? Non ? Non ? Vraiment ? Non ? On prend l'option appel à un ami ?
Ouais !
Allô, oui, c'est l'hépatite, ça va ? Bon, bah moi ça va, oui, voilà, tout à fait, oui, je m'installe dans ton corps dans 2 jours. Voilà, j'ai ramené quelques copines, hein, une chlamydia, un petit herpès, enfin tranquille, t'inquiète, on prend pas de place. En fait, la maladie, c'est pas vraiment hilarant. C'est un truc assez sale, plutôt harassant, tu allaites, tu restes à gare. Enfin, sale, non, c'est très habile, c'est fournois, c'est sournois même, c'est fourbe. Ça aime les milieux humides et des muqueuses diverses et variées, et ça vient habiter ton sang sans que tu aies rien demandé. Ça te prend comme une grippe, ça te retourne comme une crêpe. Ça n'a pas de visage, pas d'odeur, ça te prend en traître, ça ne te prévient pas, personne n'a la tête de sa maladie. Personne.
Ah ouais, je peux pas, je bande mou si je mets ça.
Mais non, mais mets pas de capote, mais t'inquiète, je sors d'une relation longue. Non, mais moi, j'ai couché qu'avec 2 mecs depuis et franchement, je leur fais confiance. Eh ben, pas moi, en fait. Hélas. D'ailleurs, entre nous deux, c'est peut-être toi qui devrais pas me faire confiance. Tu sais pas qui j'ai embrassé, tu sais pas ce qui s'est passé dans mes dernières nuits d'ivresse, est-ce que vraiment j'ai fait gaffe, tu sais ? Moi, je m'en rappelle peut-être pas. Quoi ? On risque rien, tu dis ? Eh ben, dis-le à toutes celles et ceux qui ont pris le risque de trop. Tu fais moins le malin. Avec tout le harem de gens qui gravitent autour de nous, ceux qu'on harponne, ceux qu'on aime, ceux qu'on habille du regard, ceux qu'on s'honore d'avoir, comment ne pas se transformer en petit zoo local de MST ?
Champignons, gonocoque, chlamydia, qui en veut ? En voilà !
Il y a une horde de maladies sauvages qui se baladent. Et le problème, c'est qu'une bonne partie est asymptomatique. Pas de symptômes, pas de problème. Jusqu'à ce qu'on se découvre stérile et qu'on t'ampute les trompes. Est-ce que l'évolution des traitements a fait qu'aujourd'hui, on se dit que vivre malade, c'est pas si grave ? Est-ce que c'est juste un énorme tabou autour des maladies de nos intimités ? Je veux dire, tu vas pas déclarer entre le fromage et le dessert qu'il faut calmer sur le vin parce que tu prends des antibiotiques pour la chlamydia, alors que tu le ferais normal pour une grippe, non ? Sans banaliser les infections sexuellement transmissibles, est-ce qu'il n'est pas l'heure de se prévenir et de chérir nos sécrétions de manière safe en communiquant, en se dépistant, en aimant nos muqueuses saines ? Tu sais t'en protéger ? Non ? Moi oui. La plupart des IST se transmettent par le sang et les muqueuses. Donc tu te protèges, tu mets une capote, tu fais gaffe à pas mettre tes doigts partout si tu as des petites coupures dessus, tu ne suces pas les bonbons des inconnus, aussi charmants soient-ils, tu vas à l'hôpital si tu as une ou plein de relations à risque dans les 24 heures, tu communiques. Tu fais des tests, quoi. Souvent. Tu fais gaffe, en fait. La base.
C'était du tarpin sur la planche, notre abécédaire marseillais qui vous a fracassé la tête à coups de hache. Comme à chaque fois, merci à Seb, à la régie et à Nico. Merci à Radio Grenouille et à Radio Zinzine pour leur diffusion hertzienne. Vous pouvez nous suivre sans hashtag, mais sur les internets et sur la page Facebook du Tarpin et en podcast sur Arte Radio.
Waouh, 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 pas si vite, Matelot. Ah ouais. On n'oublie pas de dire merci à Anaïs. Et je crois aussi que Thomas, tu avais quelque chose à rajouter.
Oui, alors Radio Grenouille organise une campagne de soutien jusqu'au 14 juin afin de récolter 10 000 euros.
10 000 euros !
Alors vous pouvez aller sur le site internet de Radio Grenouille pour vous aussi mettre la main à la pâte parce qu'on aime Radio Grenouille et qu'on veut plus de radio libre.
Ouais, 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 ka-ching !
Restez à l'écoute, ne hachez rien.
Même pas le steak.
Car il nous reste
du tarpin sur la planche.
Allez, on se retrouve le mois prochain, même heure, même lieu, et
des bisous.